Bonsoir Tristan. Écoutez, j'ai de la chance de vous obtenir déjà deux reprises, je crois. Et donc, vous avez eu l'occasion d'analyser des rêves qui étaient donc les plus récents du moment. Mais entre deux, bon, il y a un rêve qui me tenait à cœur, que je n'ai pas pu vous exposer, et qui remonte au mois de février dernier. C'est un rêve assez court, en fait. Et dans ce rêve, je me trouve au volant d'une voiture que je n'ai plus. Vous m'entendez ?
Très très bien, nous vous écoutons Cédric.
Oui, donc je suis au volant d'une voiture que je n'ai plus. Et j'ai un fils unique là qui a 14 ans aujourd'hui, mais dans ce rêve, il en a beaucoup moins. Il a 5-6 ans. Et il est assis sur la banquette arrière, derrière le conducteur qui est moi-même. Et donc, dans ce rêve, je survole un peu la voiture qui est en déplacement. Je survole la voiture au niveau de... J'ai la vision, hein, la vision qui survole la voiture au niveau de la porte arrière gauche. Et j'observe mon fils. Et mon fils porte un anorak capitonné. Enfin, un peu capitonné, avec les coutures apparentes qui dessinent des losanges sur la capuche. Et il est sage, il est silencieux, il se tient tranquillement. Seulement voilà, au bout d'un moment, il s'incline en avant et sa tête vient heurter le dossier du siège où je suis, du siège conducteur. Et là, à ce moment-là, je comprends qu'il est mort, qu'il est décédé. Allô ?
Oui, nous vous écoutons toujours, Cédric.
Oui, vous avez bien compris le récit de mon histoire.
Oui, le rêve s'arrête là.
Le rêve s'arrête là, et moi, je suis très, très bouleversé. Ça m'a retourné toute la journée qui a suivi, quoi.
Donc, il semble avoir quel âge dans le rêve ? Cédric ?
Ah, je suis désolé, je suis sur un portable...
Vous êtes en voiture ?
Ça marche pas très bien. Je peux me permettre d'ouvrir un peu la radio, peut-être que vous entendrez mieux.
Oui, vous êtes en voiture, Cédric ?
Je suis en voiture, effectivement.
Est-ce que vous êtes arrêté ?
Je suis sur le point de m'arrêter.
Voilà, merci beaucoup de vous arrêter.
Oui.
De regarder dans vos rétroviseurs s'il n'y a pas un motard qui arrive.
Oui, bien sûr.
Parce que pour les gens qui font de la moto, les utilisateurs de portables sont vraiment des plaies.
Oui, oui. Donc je m'arrête incessamment.
Voilà, nous vous entendrons mieux, vous nous entendriez mieux.
Absolument. En fait, je vous ai appelé parce que je n'avais pas la certitude de vous avoir tout de suite, parce que, bon, il est vrai qu'il y a pas mal de gens qui appellent, ça se solde souvent par un échec, donc je me suis dit, bon, cette fois-là, ça va pas marcher non plus.
Voilà, ça marche.
Ça marche.
Est-ce que vous m'entendez maintenant, Cédric ?
Oui, je vous entends très bien.
Quel âge semble avoir votre fils dans le rêve ?
5-6 ans. Plutôt 5 ans même, oui, plutôt jeune. Hein.
Et aujourd'hui, il a 14 ans, c'est ça ?
Il a 14 ans, oui.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quelque part rompu le contact avec votre fils quand il avait 5 ou 6 ans ?
Ah oui, seulement, oui.
Pourquoi ? Parce que vous vous êtes séparés ? Parce que vous n'étiez plus disponible pour l'écouter ?
Non, c'est... Je le vois au quotidien, c'est simplement que là, il est dans sa période de puberté, il s'affirme et bon, il me toise un peu. Avant, il était tout le temps sur mes genoux, on partageait des jeux ensemble, j'étais un peu son grand frère, hein, vu qu'il est fils unique. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il a tendance à mener sa petite vie, quoi.
Alors, ce que montre le rêve, c'est que vous avez peut-être interrompu votre rôle de père, c'est-à-dire de conducteur,
oui.
Quand votre fils avait 5 ou 6 ans. Là, vous avez utilisé un mot, vous avez un rapport de frère avec lui.
Bah, disons, dès lors qu'il était fils unique, qu'il n'avait personne avec qui jouer, j'étais un petit peu le grand frère de substitution, quoi, tout en
oui,
étant le père.
Mais c'est pas une très bonne chose qu'un père soit le frère de son fils. Parce que ce que
le... Je ne peux pas l'entendre dans le sens littéral du terme. c'est un frère de jeu, je dirais. J'étais là pour partager ses jeux, en fait.
Oui, mais là, comme vous voyez que votre enfant meurt quand il a 5 ou 6 ans, ça veut dire que vous avez peut-être interrompu votre rôle de père. Et que les liens de père à fils que vous y avez avec lui ont peut-être été dissolus au profit de liens plus fraternels, mais qui n'étaient pas forcément ce que lui attendait de vous. Parce qu'à partir du moment où un individu a des rapports de camaraderie ou de, comment dire, se situe plus comme un frère ou comme un copain avec son enfant, il peut y avoir aussi des rapports négatifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rapports de jalousie.
Oui, je vais admettre, ça me dépasse un peu, parce que bon, comme tout père, un père peut partager les jeux de son enfant.
Non, non, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas justement la perte du père qui est signifiée ? Là, vous êtes en voiture, votre fils est derrière vous. Ça veut donc dire que c'est vous qui guidez.
Oui, absolument.
On pourrait penser, d'après votre rêve, qu'à un moment donné, vous n'avez pas pu achever votre rôle de père et que vous avez préféré le rôle de frère, parce que c'était plus facile.
Non, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, ou alors c'était inconscient.
Ah non, je ne dis pas que ce soit conscient, mais beaucoup d'individus masculins qui sont pères aujourd'hui se retrouvent dans ce schéma. C'est-à-dire que la perte des anciennes formes, les structures se sont dissoutes un petit peu, et donc l'image du père est remise en cause. On pense qu'avoir un rapport fraternel avec son fils, c'est mieux. Mais quelquefois, c'est au détriment du rôle du père. Et le garçon peut vous en vouloir après. Parce qu'effectivement, il a trouvé un copain de jeu, mais il n'a plus ses limites.
Oui, quoique les problèmes des limites ne se posaient pas encore à cet âge-là, ça s'est posé quand même beaucoup plus tard.
Non, bien sûr, parce qu'à cet âge-là, ce n'est pas visible.
Oui.
L'enfant est ravi de trouver un compagnon de jeu.
Absolument.
Mais est-ce que vous ne l'empêchez pas d'avoir d'autres contacts ? Est-ce que ce rapport ne devient pas exclusif ?
Il est vrai qu'il avait peu de camarades de rue, pas de camarades vraiment disponibles dans le voisinage. Donc, soit il jouait seul, soit c'était moi qui me rendais disponible pour partager ses jeux ou pour l'éveiller à de nouveaux jeux. Et encore, cela se faisait souvent le week-end parce que, à la fin de la semaine, j'avais des grandes amplitudes de journée de travail, donc je le voyais peu. Je partais le matin, il n'était pas levé, je rentrais le soir, il était sur le point d'aller se coucher. Donc il était exclusivement avec sa mère, je dirais, l'essentiel du temps. Donc je me rattrapais le week-end.
Voilà, et le peu de temps que vous avez avec lui, vous le consacrez peut-être
au jeu, oui.
Oui, plus au jeu qu'à...
C'est demandeur en même temps.
Ah, tout à fait, parce que l'enfant est toujours demandeur.
Oui.
Et surtout, il peut entrer dans la toute-puissance, puisqu'à ce moment-là, il est l'égal du père, ou même il peut dominer le père.
Alors, il avait 6 ans en 98, on est en 2007, ça fait 7 ans. Et en 7 ans, ma disponibilité s'est amoindrie, pour ne pas dire, au profit du travail, parce que bon, j'ai changé de travail, et puis voilà, je suis plus du tout disponible. Quoi.
Donc voilà, donc,
disponible.
C'est ce que montre le rêve, à ce moment-là, vous perdez quelque part votre enfant.
Ah oui, mais c'est moi qui en souffre en plus.
Et là, effectivement, il y a une souffrance, parce qu'aujourd'hui, lui revendique ce père qu'il n'a pas eu, ou pas assez. Et donc, il est à l'âge de la rébellion, et vous êtes forcément, de toute façon, le mauvais père.
Oui, tout à fait. C'est ce
puisque
que je dis. Oui, oui.
À l'adolescence...
Je suis en proie à des critiques, à des bouderies, ou des attitudes de rejet, de contestation.
Et là, il attend aussi peut-être encore des limites. Des limites qu'à une époque, vous ne lui avez plus données. Un cadre, en tout cas. Parce que des limites, c'est aussi un cadre. C'est un endroit où on peut s'épanouir. C'est une structure, c'est une colonne vertébrale pour l'enfant. Excusez-moi, je ne veux pas dire que vous soyez dans ce cas, mais si on prend l'exemple du pervers narcissique, qui est une forme, chez l'individu adulte, d'enfance attardée. Le pervers narcissique va se conduire comme un enfant, ou comme un frère, ou un frère aîné, mais un frère qui va être très exigeant. C'est-à-dire que vis-à-vis de la mère, il attend toute l'attention sur lui et non pas sur l'enfant.
Vis-à-vis donc, de la mère.
Vis-à-vis de la mère, donc de l'épouse.
Oui.
le père, au lieu de se conduire comme un père et comme un époux, se conduit comme un enfant exigeant. Et il va monopoliser l'attention de la mère sur lui au lieu que la mère puisse aller vers l'enfant. Donc ça, ce sont des cas extrêmes.
Oui, d'accord. Mais je ne m'inscris pas dans cette situation.
Voilà, non, non, tout à fait. Mais là, je prends un cas extrême pour montrer que la camaraderie ou la fraternité qu'on peut avoir avec l'enfant, elle doit être mesurée, pondérée. Par moments, oui, mais l'enfant attend toujours inconsciemment que son père soit toujours dans le rôle du père.
Pour être très honnête, il y a d'autres facteurs qui intervenaient.
Oui, le travail.
Il y a le travail d'une part, et puis un sentiment de culpabilité qui était lié au fait que je n'ai pas pu lui donner de petits frères ou de petites sœurs.
Tout à fait, ça peut faire beaucoup de choses qui interviennent, qui vont interférer dans la relation de père ou fils.
D'accord.
Et là, le rêve exprime de façon très brutale, puisque ce n'est pas le cas, heureusement, qu'il y a eu une scission, vous avez perdu votre enfant à ce moment-là.
Ouais.
Il est dans une espèce de repli sur lui, et la forme que vous voyez, c'est que aujourd'hui, il est dans l'exigence de l'enfant de 6 ans, qui a été emmitouflé sous trop d'amour, sous trop de jeux, sous trop de...
Ouais. Alors, lorsque vous parlez de repli sur lui, pour moi, c'était pas flagrant à l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, oui, tout à fait.
Non, parce qu'à l'époque, ça ne se voit pas, mais son évolution, une partie de son évolution psychique s'est bloquée à cet âge-là, l'âge où il a un peu perdu son père.
Et alors, le remettre, je sais pas.
Là, c'est vrai que c'est difficile.
La vie est tellement prenante qu'on n'arrive même plus à prendre du recul par rapport à ces événements-là et à se recadrer.
Tout à fait. Là, il est vrai que c'est difficile aujourd'hui de mettre des limites et un cadre à un adolescent, mais c'est pourtant ce qu'il peut attendre encore. Mais que ce soit expliqué, que ce soit cohérent pour lui, que ça ait un sens. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile.
Des limites dans le sens où, par exemple, il y a des limites qu'il ne doit pas outrepasser, il doit rester dans un contexte, un périmètre que je lui définis.
Tout à fait, ou que ses exigences soient modérées.
De ce qu'il peut se permettre, de ce qu'il ne peut pas se permettre.
Et par exemple, de ce que vous donnez en argent, peut-être en donner un peu moins.
D'accord. Oui. À ce propos-là, ça se pose pas en ces termes, puisque de l'argent, je lui en donne, mais pas en main propre. C'est-à-dire qu'il a un compte qui est rétribué. L'argent de poche, ce serait plutôt sa maman qui contribuerait. Mais je voudrais passer du temps avec lui, mais c'est très difficile. Et puis, il y a un âge où ils sont complètement en situation fusionnelle avec l'ordinateur. On a beau les réprimer, essayer de doser le temps de travail pour la scolarité et le temps du loisir. Bon, j'ai l'impression que son compagnon du quotidien, c'est l'ordinateur, quoi.
Oui, c'est ça, c'est le tout
et
à
c'est
difficulté.
C'est même pas pour des jeux, c'est pour chatter, c'est pour communiquer.
Oui, c'est là, toute la difficulté pour vous, ça va être de savoir comment lui faire comprendre qu'il doit se limiter.
Oui, absolument. Oui.
Comment, par un langage intelligent, il va arriver à comprendre qu'il perd son énergie sur l'ordinateur. Et qu'il est plus dans le virtuel, donc pas dans une forme de vie réelle.
Oui. Alors parfois, j'ai agi un peu dans la colère ou la brusquerie. J'ai compris que ce n'était pas la bonne méthode. J'essaie de lui faire comprendre gentiment, lui faisant entendre raison, qu'il fallait qu'il s'ouvre à autre chose. Ça ne marche pas toujours, mais jusqu'au moment où c'est lui qui en prend conscience. Alors, de fait, je m'en trouve soulagé, mais bon, c'est pas facile. Mais bon, évidemment, le rêve tel que je l'ai vécu dans ce rêve, la symbolique était assez violente et évidemment, pris au premier degré, c'était très très douloureux.
Oui, c'est douloureux. Mais c'est juste pour vous faire rebondir, réagir, je pense que le rêve utilise cette forme violente. Vous avez maintenant une impression, un cliché de ce que vous pouvez être l'un pour l'autre. Et en vous opposant, en essayant de vous opposer à ce cliché, vous pourrez peut-être renouer un dialogue. Mais c'est vrai que c'est difficile.
C'est difficile. D'autant que moi, je suis en demande de son amour. Je voudrais le reconquérir en quelque sorte. Mais...
Alors là, vous avez peut-être retrouvé la clé angulaire, le point d'articulation important. c'est que moins vous attendrez son amour et plus vous souhaiterez du bien pour lui, et plus ça avancera peut-être.
Plus je ferai du bien pour lui, plus ça avancera peut-être.
Oui, sans souhaiter son amour.
Sans
souhaiter son amour. C'est-à-dire si vous êtes capable de d'aller au-delà de ses reproches.
Ah ouais.
De ses bouderies, de ne pas le contrarier. Ouais. Si vous êtes capable de vous opposer à ces formes de...
En plus grand, plein de... Comment dit-on? Je trouve pas le mot. Bon, tant pis, je sens que je vais pas le trouver, mais... En étant dans une sorte d'état de grâce et d'indulgence à son encontre, quoi. En faisant montre d'indulgence, en définitive.
Peut-être moins d'indulgence vis-à-vis de lui, c'est-à-dire ne rien attendre pour le moment de sa part, ne pas attendre qu'il vous aime.
Ah oui, bah, de toute façon, je respecte ça. Parfois, je vais commander un bisou, je le chahute, ça le fait sourire. Des fois, j'arrive presque à le faire rire, mais bon, ça reste assez fugace, très court dans le temps. Et voilà, après, je passe mon chemin. Et il me donne l'impression en même temps d'un enfant qui veut s'émanciper, qui veut paraître un peu plus grand.
Tout à fait, mais là, vous le maintenez dans la toute-puissance, puisque c'est vous qui faites l'enfant avec lui.
Bah oui.
Donc, il a quand il sourit, c'est qu'il prend conscience du pouvoir qu'il a sur vous.
Ah bah, ça, c'est évident. Oui, je suis assez désarmé.
Donc, si vous attendez moins son amour et si vous souhaitez plus son mieux-être, vous saurez vous comporter avec lui en empêchant sa bouderie, en passant outre.
De comprendre. Oui, je vais pouvoir m'y employer en passant outre.
Ce n'est pas grave de contrarier. Ce qui est important, c'est qu'il puisse se réaligner sur quelque chose de positif pour son évolution.
Vous voyez, j'ai un comportement ce matin, ça m'a un petit peu contrarié. Dès le matin, dès la première heure, il est arrivé, il s'est collé sur l'ordinateur. Bon, moi j'avais besoin qu'il me rende disponible pour pouvoir faire ma comptabilité. Et dans le même temps, bon, j'en profite pour télécharger ma messagerie, mon courrier par... Bon. Et dès que j'ai pris place devant l'ordinateur, il s'est arrangé pour faire tomber la ligne ADSL. J'ai rien dit, j'ai terminé ma comptabilité, je l'ai appelé en disant, écoute, ça y est, j'ai fini, tu peux reprendre l'ordinateur. Et comme un fait exprès, la connexion ADSL a été rétablie. Je lui ai dit, c'est curieux, il suffit que tu t'absentes pour que la ligne, elle tombe, et que dès que tu reviens, la ligne, elle revient, c'est extraordinaire. Tu as arraché un des filtres, qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est pas moi, pas du tout, mais puisque tu le prends comme ça, je vais prendre le filtre et je vais le retirer. Il est parti, il a retiré le filtre. Et bon, j'ai laissé passer un temps et puis ça m'a tellement fâché que du coup j'ai embarqué le modem avec moi pour le sanctionner. Alors là j'ai pas été indulgent, je ne sais pas. Alors est-ce que j'étais à même d'établir une limite? Est-ce que j'ai agi dans le bon ordre? Je ne sais pas. Enfin, j'ai l'impression de...
Alors effectivement ça peut paraître une surenchère, mais est-ce que là c'est vous qui avez eu le dernier mot?
C'est moi qui ai le dernier mot.
Oui, parce que là, il vous montrait sa puissance en vous privant de la DSL.
Absolument. Et d'un autre côté, le raisonnement que j'ai tenu, c'est que si je me laisse prendre par lui comme ça, vous êtes toujours là?
Oui, et vous?
Ah oui, je ne sais pas pourquoi j'entendais un sifflement. Oui, je craignais qu'en laissant filer comme ça, j'ai plus du tout la maîtrise sur lui, quoi. Que les rôles soient inversés, que ce soit lui qui use de son autorité, que moi je prenne la place de l'enfant, quoi.
Tout à fait, là où donc vous vous êtes bien positionné.
Et voilà, donc c'est bien de me le dire parce que je me suis posé la question une partie de la journée. Ça m'a un peu travaillé.
Mais comme dans un rapport amoureux, moins vous craindrez de perdre son amour, plus vous le retrouverez.
Oui, mais bon, ça se concrétise par quelle attitude?
Ben là, comme vous le dites, il faut parfois prendre des décisions et poser des sanctions. Montrer qu'il a besoin, l'enfant a besoin de limites, même à 14 ans on a besoin encore de limites.
J'ai conscience de ça.
Et si quand vous imposez des limites chez l'adolescent, vous créez d'abord un ennemi, ensuite, de façon plus durable avec le temps, vous créez un ami et quelqu'un qui vous respecte.
Ah ben voilà la formule, d'accord. Bon, maintenant j'ai compris, le mec m'avait dit ça. je l'entends bien et vous m'envoyez rassuré. oui, bon, écoutez, c'est regrettable, le temps passe tellement vite qu'on ne prend même pas la peine. Non, on ne trouve même plus le temps de s'informer de ces choses-là.
Non, mais là, il y a une prise de conscience, il y a une volonté de votre part. Et nos générations ont souffert de ça.
Un enfant, c'est tellement sensible et que ça vaut pour son avenir, mais bon, la méthode intuitive, ce n'est pas toujours la meilleure non plus. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu dans vos propos. Mais bon, je crois que là, j'y vois un peu plus clair à présent.
D'accord. Eh bien, en tout cas, bonne continuation.
Je vous remercie infiniment, Tristan.